malgré tout l'écart du temps, la distance du temps, comme bien souvent, on doit faire confiance en la solidité de la pensée de Platon, en la force éclairante de Platon, ce qui ne veut pas dire d'être d'accord avec toute sa philosophie, mais néanmoins, c'est, comme on dit aujourd'hui, incontournable pour fortifier une pensée qui dépasse une opinion toute faite sur tel et tel sujet. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille adhérer, il faille être platonicien, mais c'est quand même un aliment fortifiant, consistant. Donc il faut prendre au sérieux ce que dit Platon dans toute la complexité, les contradictions apparentes sur la question de l'étranger, parce que ça aidera à sortir des opinions toutes faites et des a priori le plus souvent idéologiques qui entourent la question et moraux qui entourent la question de l'étranger. C'est-à-dire qu'en clair, on le voit aujourd'hui dans tous les débats, tous les discours s'organisent autour du présupposé de celui qui énonce le discours, de l'énonciateur du discours. Et à partir de là, on comprend que politiquement, ça soit une question nécessairement explosive. Parce que c'est une question qui renvoie aussitôt aux présupposés, aux a priori, aux préjugés des gens. Or, Platon, on pourrait dire qu'un de ses efforts les plus importants de sa pensée, c'est précisément de combattre les a priori, les préjugés, ce qu'il appelle les opinions courantes, pour passer de l'opinion vers un autre régime de logos, de discours, qui est alors ce qu'il appelle parfois l'opinion droite, traduit parfois par la formule l'opinion droite. Ce qu'il faut entendre par là, c'est une position, une parole qui fait effort de vérité, qui fait effort de vérité, qui tente d'être au plus juste de la vérité de l'être. Et ça, c'est un mouvement essentiel. Et le gros problème de nos jours, c'est que très souvent, on ne fait pas cet effort et que trop souvent, aujourd'hui, le seul souci de chacun, c'est d'affirmer son opinion, sans voir comment elle est construite. Ce qui est triste, d'une certaine manière, de nos jours, mais ce n'est pas propre à notre période, hein, c'est qu'au fond, chacun tient à affirmer son opinion en étant persuadé que c'est le « je » qui parle. Quand je dis ça, je pense ça, c'est moi. Alors qu'on ne se rend pas compte que le plus souvent, on n'est que le perroquet. C'est le perroquet qui parle. Et c'est ça qui est le plus tragique. Et s'il y a une seule leçon à retenir de la philosophie, c'est ça, c'est de passer du statut de perroquet au statut d'être parlant qui tente d'avoir un discours un petit peu vrai. Et ça, Platon, là-dessus, est irremplaçable du point de vue de la méthode. C'est que Platon, effectivement, le plus souvent, à travers Socrate en particulier, ramène un discours à l'épreuve de la logique. La logique étant, justement, comment dirais-je, la méthode même du logos, c'est-à-dire d'un discours qui soit vrai. La logique, c'est la méthode qui permet d'aller au vrai. Au vrai. Une proposition étant soit vraie, soit fausse. Alors, on peut complexifier cela, c'est souvent casse-gueule d'ailleurs, mais je n'entre pas là-dedans maintenant parce qu'on va partir dans une toute autre direction. C'est par exemple Nietzsche. Nietzsche a remis en cause cela et a voulu le penser autrement, avec grandeur d'ailleurs. Mais alors, le problème, c'est que le plus souvent, ceux qui se revendiquent de Nietzsche pensent n'importe comment. Pour penser Nietzsche, il faut avoir complètement maîtrisé Platon, je pense. Autrement, c'est une catastrophe. Pour penser à partir de Nietzsche, comme Nietzsche, il faut avoir au moins fait le parcours de penser Platon. Parce que je dirais que c'est le préalable pour que une pensée nietzschéenne ne soit pas de la bouillie, en clair. D'autant plus que Nietzsche a franchi de la forme d'une construction logique systématique d'un discours, vu qu'il procède par fragments, par aphorismes. Mais on aime bien ça aujourd'hui. Si vous regardez de près, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'apparentent à des essais entre philosophie, politique, littérature, qui sont sous la forme des fragments, des aphorismes. Le gros risque, alors ça c'est formellement dans la lignée de Nietzsche, le gros risque de cela, c'est que si on n'a pas un sous-sol rigoureux, nourri des exigences du discours de Platon, eh ben ça fait n'importe quoi. Sur la vérité, raison de plus pour soumettre la question du vrai à l'épreuve sans pitié de la critique méthodologique. C'est-à-dire, la critique méthodologique, c'est ce qui consiste à éclairer constamment les non-pensés, les non-dits, les a priori, qui sont le socle d'une proposition qui se dit vraie. C'est ce que fait Socrate et Platon. Platon, à travers Socrate, c'est ce qu'il fait constamment par rapport à ses interlocuteurs qui affirment telle proposition, et Platon, enfin Socrate, va démonter, mettre à nu les conditions qui amènent la proposition de l'interlocuteur en question. Pour mettre en évidence, par exemple, que ce qu'il a dit Alcibiade, Criton, il le pense comme vrai, mais qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Alors, à partir de là, le gros risque, c'est effectivement de renoncer à toute exigence de vérité. C'est une tentation très contemporaine. On peut appeler ça autrement, c'est le relativisme généralisé. C'est qu'en gros, il n'y a que des opinions, toutes les opinions se valent. On sait aujourd'hui à quelle catastrophe ça aboutit. Et entre nous soit dit, par exemple, ça invalide toute possibilité de science. La science présuppose qu'il y ait du vrai et du faux, distinguable. Autrement, il n'y a pas de science. Et c'est un débat permanent depuis Platon, cela, entre nous soit dit. C'était le grand enjeu de la Renaissance, italienne notamment, à travers Galilée, Copernic, etc., qui se faisaient brûler parce que leur proposition apparaissait comme complètement fausse, hérétique, dangereuse, parce qu'elle n'obéissait pas au dogme dominant, qui était en l'occurrence le dogme de l'Église, enfin de l'institution romaine à l'époque. Et Galilée, on peut le considérer comme le fondateur de la science moderne. Milner, par exemple, pour nommer la science moderne, la pensée scientifique moderne, dit que c'est une des sciences galiléennes. Donc l'enjeu est de taille. C'est Paul Jorion, vous vous souvenez, on l'avait fait venir. C'est un économiste anthropologue. Anthropologue d'abord, économiste ensuite. Mais j'inversais parce que il est aujourd'hui connu davantage pour ses ouvrages sur l'économie parce que l'anthropologie, il s'est fait jeter de l'université française. Bref. Il écrit un livre justement sur l'origine du vrai et montre que c'est effectivement propre à la Grèce antique et à Platon en particulier. On a réduit Platon à des propositions qui le dénaturent, qui sont fausses. Pourquoi je dis cela? Parce que il faut renvoyer à la vision de l'être de Platon, alors qu'elle était encore davantage développée par la suite par les néoplatoniciens. Mais vu que je faisais allusion à la Renaissance, rappelons-nous qu'un des grands néoplatoniciens de la Renaissance, Nicolas de Cuse, son traité majeur qui le fait connaître et qui est vraiment à lire, s'appelle « De la docte ignorance ». Rappelons-nous aussi que Platon fait dire par Socrate « Je sais que je ne sais pas ». C'est-à-dire qu'il faut savoir que Platon sait parfaitement qu'au bout du parcours, il reste une énigme. Il le sait, Platon, ça. Il le dit. Platon n'est pas un scientiste. Et ça renvoie à sa vision de l'être, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est compliqué à résumer comme cela. C'est dans le Parménide qu'on le voit bien, puis dans les néoplatoniciens de l'époque de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'être est hiérarchisé pour Platon. Il y a une hiérarchie de l'être, comme une pyramide si on veut, de l'être pur tout en haut, que par définition, on ne peut pas connaître. Et Platon va même plus loin, il va même jusqu'à penser, parce qu'il y a une aporie là pour lui, mais il la connaît, l'aporie, c'est toutes les hypothèses du Parménide. Jusqu'à penser qu'au fond, au-delà de l'être, l'être, est-ce que c'est le un? Et que l'articulation de l'un et du multiple, c'est des questions que se pose Platon. Mais l'un, c'est quoi? C'est l'être. L'être un, l'unité. Il va jusqu'à penser que au-delà de l'être, il y a le bien. Et le bien, ce que parfois on traduit par l'un, on dirait bien, l'un, bien. Le bien, par définition, ce n'est pas de l'être. Donc c'est pour dire que la conception de la hiérarchie de l'être chez Platon est complexe et aboutit à un point mystérieux, d'une certaine manière. Et donc sa hiérarchie, mais ça j'en avais parlé bien antérieurement dans un atelier, je ne sais plus quelle année, il faut la comparer à une pyramide où ça se dégrade. À chaque degré, c'est on s'éloigne de l'être, c'est la multiplication qui est une division. C'est-à-dire que plus on va à des étages inférieurs, plus ça se traduit par une multiplication d'êtres, jusqu'en bas, et en bas, c'est la matière. La matière qui est le régime de l'être le plus dispersé et multiplié. Et l'homme est intermédiaire entre l'eau et le bas, pour le dire très schématiquement. Voilà. Donc, pour Platon, il est clair que le logos, disons le langage raisonné, raisonnable de l'homme, ne va faire qu'approcher, en essayant de grimper au plus haut, des différents étages de la pyramide de l'être. Mais tout en sachant que l'homme, d'une certaine manière, n'est pas en mesure de saisir le sommet de la pyramide. Et c'est le paradoxe de l'un et du tout chez Platon qui résume cela, que j'avais déjà évoqué, que je rappelle. L'un est le principe du tout, d'accord ? De la totalité, que les sciences humaines contemporaines, oubliant au moins la moitié de Platon, confondent avec l'un. C'est-à-dire qu'en gros, les sciences humaines, c'est pour ça qu'elles deviennent totalitaires, tentent de saisir le tout, la totalité. Si on reprend sérieusement la proposition de Platon, alors là, c'est abstrait, mais c'est décisif de comprendre ça. L'un est le principe du tout. On bute aussitôt sur une aporie, c'est-à-dire une impasse, si l'un est le principe du tout. Par définition, le principe n'est pas une partie du tout, d'accord ? Donc, l'un est extérieur au tout. S'il est le principe du tout, il est extérieur au tout. Parce que une partie d'un tout ne peut pas être le principe. Une partie ne peut pas être le principe du tout. Donc l'un est extérieur au tout. Mais si l'un est extérieur au tout, le tout n'est pas le tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui excède le tout. Eh bien, cette aporie que pense Platon, je veux dire, à partir de là, on ne peut pas faire dire à Platon tout ce qu'on lui fait dire. C'est-à-dire que cette aporie qu'il pense conduit à refuser une pensée de système clos, par exemple. Parce que au fond, Platon, il a déjà pensé en disant ça, le réel de Lacan. Hein. Le réel de Lacan étant précisément cette part d'être qui est insaisissable, qui échappe, qui excède toujours, qui est toujours en excès et que l'intelligence humaine, le logos, ne peut pas saisir parce que c'est toujours à l'extérieur, ça échappera. Et ça, c'est ce que reprend Lévinas dans la notion d'altérité. On peut montrer qu'il y a une grande proximité, je dirais pas synonymie, mais je serais presque tenté de le dire, entre le réel de Lacan et l'altérité de Lévinas. C'est très très proche. On peut pas les superposer parce que c'est deux systèmes de pensée dans deux perspectives de pensée différentes, mais néanmoins, c'est très proche. Et ça, ce n'est pas anti-platonicien, au fond, à partir de ce que j'ai dit juste avant. Ainsi, donc, il est important, même si ça oblige à penser a priori contre soi, faire contre ses opinions bien assises, il est important de faire confiance à Platon, de cheminer avec lui jusqu'à un certain stade. Après, libre à chacun, dans son cheminement de pensée, de lui dire, ben, là on se sépare, salut Platon, moi je vais là, je te laisse là. Ça, c'est parfaitement légitime. Mais à condition d'avoir cheminé d'abord avec lui. Bref, donc, je pense qu'il faut cheminer avec Platon sur la question de l'étranger, la figure de l'étranger, quitte après à vivre sa propre vie de pensée. Je disais tout à l'heure, et ça c'est un principe méthodologique qu'on peut dégager plus largement, qui est essentiel. L'être, chez Platon, se pense comme une pyramide avec différents étages. Il résulte de ça, méthodologiquement, qu'une proposition ne peut être considérée comme vraie que si elle est reportée au plan de discours où elle se situe. Ça permet d'échapper à l'absolutisme de propositions scientifiques ou philosophiques, et ça permet d'échapper au relativisme généralisé. C'est-à-dire que ce qui importe de dire, c'est que telle loi scientifique ou telle proposition sur l'humain peut être vraie sur le plan à laquelle il faut la situer. Par rapport au registre, au plan auquel elle se rapporte, auquel elle se réfère. À condition de considérer qu'un système se rapporte à un niveau de l'être. Par exemple, restons sur l'humain. les biologistes, là, ont fait pas mal machine arrière. Ils pensaient, en gros, percer, ni plus ni moins, le mystère de l'humain, donc avoir une proposition de vérité sur l'humain par rapport à la carte génique. Le génome humain, mis à jour, ils considéraient qu'à partir de là, eh bien, on allait tout savoir de l'humain. Ils ont fait machine arrière. Aujourd'hui, les plus sérieux d'entre eux reconnaissent que c'est une étape, mais en fait, ils ne savent pas beaucoup plus sur l'humain qu'avant d'avoir mis à jour la carte du génome humain. Comment sortir de l'affaire? En évitant deux écueils, l'écueil qui consisterait à dire que la biologie, c'est du flan, qu'on ne sait rien, ou l'écueil consistant, au contraire, à absolutiser le discours de la biologie. C'est de dire que la carte du génome humain dit quelque chose de vrai sur l'humain, mais sur le plan où ça se situe. Que si on aborde l'humain sur un autre plan, ça n'est plus pertinent. Autrement dit, il faut rapporter tout discours qui se veut vrai au plan sur lequel il est posé. Et par exemple, si l'on parle de l'âme, pour retenir le langage platonicien, l'âme étant, chez Platon, autre chose que l'âme pensée, par exemple, par le christianisme ou par le judaïsme encore plus. Si l'on situe la proposition sur le plan de l'âme, la proposition biologique du génome n'a aucune pertinence. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle soit fausse. Elle n'est pas fausse sur le plan où il faut l'inscrire. Et ainsi de suite. Comme la notion d'étranger renvoie à un plan anthropologique et pas métaphysique, pas philosophique, du coup, elle est soumise à tout la contingence du temps présent, c'est-à-dire à tous les aléas du temps présent. Donc forcément, elle est soumise aux passions humaines. Platon dirait que pour arracher un discours au régime des opinions, il faut lui faire quitter le plan des passions humaines, qui par définition, pour Platon, c'est le bordel, il faut être clair. Pour s'arracher, l'abstraire et le mettre à un autre niveau. Ce qui se passe actuellement, le traitement qu'ont les médias de deux drames humains, qui sont quasiment concomitants, qui est d'un côté le tremblement de terre du Népal et d'un autre côté les noyés de la Méditerranée. La différence de traitement des deux est très intéressante parce qu'elle ne fait que révéler le fait que tant que l'étranger est le lointain, et le lointain inconnu mais lointain, alors c'est beaucoup plus facile de penser une espèce de solidarité. Quand l'étranger apparaît brusquement proche, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Mais tout ça, ça fait symptôme, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait symptôme. Alors là, même réponse, tout dépend du plan sur lequel le discours dit philosophique s'inscrit. Plus on est dans un discours conceptuel, abstrait, moins la temporalité humaine intervient. C'est ce qui permet d'ailleurs de pouvoir quand même comprendre des choses, que des choses nous parlent, malgré la difficulté, chez Platon, pour prendre cet exemple, vu qu'on est sur lui, moi je pourrais prendre d'autres exemples. Et que par contre, plus on est sur un niveau de discours qui est proche du concret ou du sensible, plus il y aura des difficultés. Ce que l'on peut admettre, là aussi, il faut éviter les écueils opposés. D'un côté, il faut tenir, et c'est ce que je disais en préambule, d'où la difficulté d'appréhender Platon, il faut tenir le fait qu'effectivement, il y a une relativité de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des conditions historiques qui font que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Donc, la question de l'étranger dans l'Athènes antique et la question de l'étranger aujourd'hui n'est pas vraiment la même, parce que il y a 2500 ans d'histoire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier que Platon, Socrate, les Athéniens étaient des êtres humains, des êtres parlants humains, qui ne sont pas si éloignés que ça de nous. Donc, s'il y a du commun, on peut mettre ensemble des choses communes. Si on admet que c'était des hommes et qu'on est des hommes, il y a des propositions qui peuvent être communes. Mais encore une fois, je crois qu'il faut tenir, et restons-en à notre rapport à Platon, les deux bouts à la fois, c'est-à-dire d'un côté l'histoire, l'historicité introduit des modifications qui fait que tout n'est pas immédiatement transposable, mais que d'un autre côté, il y a une dimension ahistorique, atemporelle, qui est réelle, qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier qu'il y ait quand même une permanence entre l'homme grec antique et nous aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Ça serait aberrant de refuser cette hypothèse. Donc, attention à ne pas s'égarer sur des voies de garage ou des écueils qui ne mènent nulle part. Et encore une fois, donc, poursuivons sur Platon. Platon, il faut tenir deux propositions concernant à sa pensée de l'étranger. D'un côté, reconnaître que ces propositions sont historiques, historicisables, c'est-à-dire qu'elles sont relatives au temps d'Athènes, 2500 ans en arrondissant, avant nos, enfin 2500 ans de journée, mais que d'un autre côté, il y a des propositions qui sont pour nous entendables avec profit. Alors, ces propositions de Platon, justement, elles sont dispersées. Et que pour éviter les contresens, là aussi, il faut les rapporter au niveau de discours où elles se situent. Et en particulier, on peut différencier, si on de l'étranger chez Platon, mais plus largement, dans ses livres, trois types de discours. Trois types de discours, et on verra comment les choses peuvent s'éclairer en rapportant les paroles de Platon au bon niveau de discours. C'est pas moi qui l'invente, cela, c'est un helléniste qui est décédé depuis un moment, qui s'appelait Henri Joly, J-O-L-Y. Il y a un premier niveau de discours qu'on pourrait qualifier de discours descriptif, ou factuel, ou anthropologique, ou même ethnologique. Platon va exposer les faits, ou resituer son propos par rapport aux faits qu'il observe, aux faits humains, aux faits historiques de son époque, aux faits anthropologiques de son époque. On pourrait dire que c'est un discours presque sociologique de ce point de vue-là, c'est-à-dire que Platon n'est pas un philosophe dans sa tour d'ivoire ou au sommet de sa tour telle que Kant, qui ignore son temps. Il est inscrit dans son temps et il est particulièrement curieux de son temps. Et son temps à Athènes, mais pas seulement. Platon, encore une fois, je l'avais évoqué rapidement l'autre fois, est curieux de ce qui se passe à l'extérieur d'Athènes. Ce qui est un point de méthode déjà essentiel que beaucoup de gens aujourd'hui qui tiennent des discours devraient s'appliquer eux-mêmes. Et des discours sur l'étranger, par exemple. Platon a voyagé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Platon, il est allé en Égypte, en Crète, en Sicile. Voilà, il a voyagé. Son horizon ne se borne pas à la cité d'Athènes. Et de ses observations, il en tire des propos descriptifs, par exemple sur la façon de vivre des étrangers. Donc il n'est pas, à partir de là, dans un discours uniquement athénocentrique ou ethnocentrique. Ça, c'est un premier niveau de discours. Ou également, il s'appuie et relate ce qui se passe dans sa cité aussi. C'est-à-dire qu'il relate à Athènes, il y a malgré tout des étrangers, et relate comment ça se passe. Quelle est la place de ces étrangers, leur place de fait, leur place effective. Donc ça, c'est un premier niveau de discours qu'on peut qualifier, de, encore une fois, de descriptif, anthropologique, factuel. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'il va pouvoir développer des propos qui ne font que traduire ce qui se passe à Athènes, qui n'est pas des propos qui sont sa propre philosophie forcément de la chose. Donc si on confond les choses, si on se trompe de registre, vous voyez comment rapidement on lui fait dire des choses, on lui attribue des pensées qui ne sont pas les siennes. Il fait des comparaisons, on va y venir. Et la méthode comparative qui est au fond la méthode qu'a inventée l'ethnologie moderne, Platon il la met en œuvre. Il met en œuvre une méthode comparatiste. La question qui se pose, c'est on ne peut comparer que ce qui est comparable, mais à quelles conditions c'est comparable, quoi. Après, ne tombons pas dans, là aussi, un excès qui est spatialement le même problème que temporel, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, tout n'est pas comparable terme à terme, mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il y ait de la comparabilité possible. Mais ça, c'est des débats essentiels. C'est des débats qu'ont les anthropologues, qu'ont les ethnologues, et qui sont des débats qui font partie de leur science. Par exemple, quand un ethnologue va observer telle tribu traditionnelle, peu importe où, la question qui se pose est au fond une question de comparabilité. C'est-à-dire que mes observations sur les mœurs de telle tribu, je ne vais forcément les énoncer qu'en les comparant même implicitement à ce que je connais chez moi. Et donc, est-ce que je projette, est-ce que je fais une comparaison indue? Mais si on affirme radicalement qu'il n'y a aucune comparaison possible, à l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de compréhension, de connaissance, de savoir possible, de discours possible sur les autres. Ce qui est quand même une impasse redoutable. C'est-à-dire qu'on renvoie les autres à l'ineffable, à l'insaisissable, à l'inconnu radical. Entre parenthèses, ça peut complètement se retourner contre une bonne intention au départ. C'est le problème d'un débat qui est très présent aujourd'hui sur le différentialisme. Est-ce que les tenants du différentialisme culturel ou anthropologique, ethnologique, disent au fond, c'est un relativisme total, c'est-à-dire on peut rien dire sur l'autre, on peut pas porter d'appréciation, parce que d'ailleurs, c'est relatif à chacun. Je rappellerai que ce discours que certains tiennent avec des bonnes intentions, c'est précisément le discours qui a été repris par l'extrême droite la plus radicale aujourd'hui. Hein. Le discours différentialiste est un discours d'extrême droite, pour finir. Donc vous voyez qu'il faut se garder de positions extrêmes qui sont des écueils pour la pensée. Donc, Platon s'intéresse effectivement, disons, aux mœurs, au mode de vie d'étrangers. Et il s'intéresse à observer aussi quelle place est faite concrètement aux étrangers qui vivent à Athènes. Donc, il y a une méthode empirique de ce point de vue-là. Une méthode empirique, c'est-à-dire une méthode qui part de l'expérience sensible. C'est pour ça que là encore, j'insiste là-dessus, parce que c'est des nœuds essentiels à démêler. On dit, Platon, c'est un discours généraliste, abstrait, métaphysique. Métaphysique, ça veut dire au-delà de la physique, donc tout de suite, c'est pas concret, c'est en dehors de la vie concrète, c'est un discours purement abstrait qui n'apporte rien. Sauf que la méthode de Platon, c'est une méthode empirique, je dirais même, par beaucoup d'aspects matérialistes. Et pas idéaliste. Au sens où Platon affirme partout qu'il n'est de connaissance que sensible. C'est-à-dire que toute connaissance et tout discours humain part de l'expérience sensible. Ne part pas d'une idée qu'on aurait comme ça dans la tête, part de l'expérience sensible. Et sur l'étranger, il a des propos qui partent de l'observation sensible, c'est-à-dire par les sens. Et Platon sait pertinemment que le rapport au monde est d'abord un rapport sensible. Il le sait, ça. Il l'affirme. Et si la méthode galiléenne appliquée à la physique, à l'astronomie, etc., est une méthode qui est la méthode de la science moderne, expérimentale, c'est-à-dire qui part de l'expérience sensible, eh bien, c'est grâce à Platon. L'Église affirmait que, par exemple, que la Terre était au centre du monde. Et grâce à la méthode expérimentale, à la Renaissance, on va établir que c'est faux, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, par exemple. L'Église, pour elle, sa vérité était de nature dogmatique, au sens premier du terme, il y avait un dogme, qui était le principe de vérité des choses. Donc à partir de là, toute autre proposition n'était perceptible que comme hérétique. Ce qu'introduit des gens comme Galilée, Copernic, etc., et plein d'autres, des philosophes aussi comme Nicolas de Cuse, Giordano Bruno, qui a été brûlé, je le rappelle, c'est de dire, on observe, on expérimente. Galilée, il a passé sa vie à grimper au sommet de la tour de Pise, et il balançait des objets de haut, et il observait la chute. Et à partir de là, il a pu établir les premières lois de la gravité. Et ça, c'est une méthode de production d'une vérité qui se situe sur un certain plan, qu'il faut rapporter à un certain plan de l'être, qui est directement inspiré et non pas en contradiction avec Platon. Donc, premier niveau de discours chez Platon, en général, mais par rapport à l'étranger en particulier, le discours descriptif, anthropologique, etc. Un deuxième niveau des discours, et qui a une fonction prescriptive ou normative, prescriptive, c'est-à-dire qui donne des prescriptions, c'est un discours, je dirais, juridico-éthique. C'est-à-dire que Platon développe ce qui lui paraît bien par rapport à la cité, à l'harmonie d'une cité. Donc là, on est sur un autre niveau de discours, qui est un discours juridico-éthique, disons. Donc, il dégage des prescriptions. C'est pour cela que, par exemple, ce niveau de discours, on va le retrouver en particulier dans les lois, dans le livre intitulé « Les lois ». Pas exclusivement, mais notamment. Parce que où c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas une catégorie de livres qu'on peut ramener à tel niveau de discours et telle autre catégorie. Les différents niveaux de discours traversent tous les livres, en gros. Mais c'est vrai que dans les lois, le propos est quand même d'abord de s'intéresser aux lois. Mais s'intéressant aux lois, il a aussi un niveau anthropologique. Et il va observer les lois, partir des lois qui existent, et les observer, hein. Troisième niveau de discours qu'on retrouve chez Platon et notamment par rapport à l'étranger, on pourrait appeler ça un discours critique. Un discours critique ou réflexif. C'est le discours le plus proprement philosophique, ça veut dire. C'est-à-dire que sur l'étranger, Platon passe au crible de l'esprit critique toutes les propositions qui peuvent être tenues par les autres